Permettez-moi tout d'abord d'utiliser le français pour faire sonner les remerciements en l'honneur de la Fondation Nazis et de son président pour l'organisation de ces journées, de ces dialogues qui ont un côté très alexandrin aussi et pas seulement athénien. Ma contribution à cette session des dialogues d'Athènes s'appuie sur un texte de Vitruve, un auteur latin du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui raconte au début du livre 7 de son traité sur l'architecture comment un certain Aristophane est devenu responsable de la bibliothèque d'Alexandrie. Selon ce récit, le roi Ptolémée désirait enrichir la bibliothèque d'œuvres nouvelles. Il organisa donc des concours de poésie à Alexandrie sous la forme de jeux en l'honneur des muses et d'Apollon. Des poètes se présentent devant le roi et le peuple alexandrin, ainsi que devant un jury composé de 6 citoyens lettrés et d'un jeune homme connu des bibliothécaires pour lire tous les livres de la bibliothèque d'Alexandrie dans l'ordre, du début à la fin et l'un après l'autre. Le peuple commence à acclamer certains des poètes après leur performance et le roi s'apprête à les déclarer vainqueurs. Mais Aristophane les accuse de plagiat et pour prouver ses dires, il va chercher dans la bibliothèque les rouleaux qui témoignent du vol littéraire par la similitude des textes. Seul le poète, le moins acclamé, a présenté une œuvre qui était réellement la sienne. Les plagiaires sont punis, l'archilecteur est nommé bibliothécaire. Je ne reprendrai pas ici le détail de mon commentaire présent sur le journal électronique, mais je voudrais très brièvement souligner les enjeux de cette histoire pour notre réflexion d'aujourd'hui sur Logos et sur Techné. Et au fond, je voudrais également expliquer pourquoi, en tant qu'helléniste et historien, je suis fasciné par la civilisation grecque et ce qui pour moi en constitue l'importance véritable. D'autres civilisations antiques ont connu des traditions lettrées élaborées, la Mésopotamie, l'Égypte, mais dans ces terres anciennes, le moteur de la tradition est moins l'auteur que le scribe, celui qui recopie sur l'argile ou le papyrus des textes reçus de ses prédécesseurs, qu'il peut réorganiser, recomposer, en découpant et en collant des extraits, comme en les recomposant. Le scribe est un relais, le maillon d'une chaîne de transmission. Ces traditions se perpétuent grâce aux scribes et aux prêtres qui maîtrisent les techniques de l'écriture et archivent les textes et les savoirs dans les palais et dans les temples, pour leurs semblables, mais aussi pour les rois et pour les dieux. Le monde grec, lui, voit émerger les poietai, ceux qui font, ceux qui ont fabriqué, ceux qui ont créé, tissé les textes, qui ont choisi les mots et les sons, les rythmes et le sens. Dans cet espace littéraire et intellectuel, le chant, la parole, puis l'écrit vont être soumis à un régime particulier qui identifie leur source et leur origine. Cette origine peut être non humaine et divine. Ce sont les muses et Apollon, source d'omniscience et de mémoire, qui inspirent les mots aux chanteurs qui leur prêtent sa voix. Mais cela peut être également le poète lui-même qui fabrique son chant, comme l'artisan fabrique un objet et affirme sa paternité sur un texte, son statut d'auteur et de compositeur. Ces deux sources déterminent deux formes de performance. Dans un cas, l'artiste crée le poème lors de la performance même, grâce à l'inspiration divine, dans l'interaction avec un auditoire. Dans l'autre, le chanteur est tenu à la fidélité littérale par rapport à un texte antérieur, lorsqu'il interprète un poème composé par un autre que lui. Entre ces deux pôles de la fluidité de la performance-création et de la répétition d'un texte fixe, il y a bien sûr toute une gamme de paliers intermédiaires. Entre l'époque archaïque et l'époque hellénistique, le monde grec a connu une évolution qui l'a conduit de la voix à l'écriture, du chant inspiré par les muses au poème écrit par un auteur identifié, de l'écoute collective à la lecture oralisée ou silencieuse, du poème singulier au corpus des œuvres d'un même poète, puis au corpus de toute la poésie grecque réunie dans une bibliothèque. Au fil de ces étapes, les poèmes sont créés, modelés et transformés par différentes techniques. Les techniques de la mémoire créatrice, les techniques du chant, de la musique et de la danse, les techniques de l'écriture, une nouvelle technique de la mémoire, contrainte par le respect de la lettre et de la forme du texte, les techniques de la lecture qui doivent réveiller les sons et les rythmes à partir des lignes et des signes d'écriture. Les poèmes grecs passent ainsi à travers différents lieux, les lieux de la performance festive et religieuse, les lieux des concours poétiques, la bibliothèque comme lieu de rassemblement de toute la littérature classique. Vitruve nous invite à réfléchir à ces différents lieux, à ces seuils successifs, à l'émergence d'un espace littéraire organisé à la fois par l'ordre de la bibliothèque, par la mémoire de la performance et par les savoirs du lecteur. Son récit nous offre une très riche matière à méditation pour nous, hommes du XXIe siècle. Vitruve témoigne des pouvoirs de l'écriture. Inscrit sur une tablette de cire ou un rouleau de papyrus, un texte est encodé indépendamment de la mémoire humaine, de la mémoire vive. Le support matériel peut préserver ce texte pour une durée plus ou moins longue. Le texte ne bougera pas, il restera identique, sauf si le support matériel est endommagé. Un même texte peut être reproduit sur différents supports, chaque copie est équivalente, conserve les pouvoirs et le sens de ce texte au prix des oublis et des erreurs involontaires de copie. Ce support matériel et ses inscriptions peuvent être réveillés, réactivés par la lecture, cet étrange processus qui implique les gestes des mains, les mouvements du regard et la transformation des signes en sons, de leur enchaînement de ligne en ligne en musique signifiante. Ce réveil, cette réactivation peuvent intervenir en tout lieu, en tout temps, en l'absence même de celui qui a écrit le texte, de son auteur comme du scribe. La voix du lecteur fait parler l'absent, sa réflexion et son intelligence prolongent et amplifient la pensée, les idées et les savoirs des morts. La culture grecque ancienne a mis au point une technologie extraordinaire qui a permis la transmission d'un patrimoine lettré et intellectuel unique sur une durée de 27 siècles. Vitruve témoigne aussi d'un ordre quasi-juridique où l'écrit désormais fait autorité. Les textes sont accompagnés d'un nom d'auteur et d'un titre qui peuvent être inscrits sur le rouleau même au début ou à la fin ou sur une étiquette qui l'identifie. Ils sont distribués en différents genres littéraires, ils s'inscrivent dans un corpus auctorial, autant de coordonnées qui les situent en un lieu précis de la bibliothèque et de la littérature, en un point d'une carte qui restera fixe à travers tous les changements d'échelle. Dans cet ordre juridique, un texte n'a qu'un seul auteur et il appartient à lui seul. La bibliothèque fait autorité en démasquant les plagiaires qui cherchent à s'attribuer des textes écrits par d'autres. Un texte appartient à son auteur, le lecteur, le chanteur, le récitant qui l'actualise par la voix se l'approprie le temps d'une performance, le temps de la lecture. Lire, c'est dialoguer avec l'autre, se glisser dans ses mots, dans sa pensée, tenter de s'approprier son œuvre sans jamais franchir la limite entre lui et moi. Lire Platon ou Aristote, Sophocle ou Aristophane, voici les dialogues d'Athènes hors les murs, à Paris comme à Washington, à Rome comme à Berlin. Vitruve témoigne aussi du pouvoir des bibliothèques qui ne se réduit pas au pouvoir additionné des livres qui les composent. La bibliothèque est le lieu qui donne forme et matérialité à la païdéia, à la culture. Elle est un dispositif où des œuvres de toute provenance, de toute époque, viennent s'organiser dans une collection structurée. La multitude des livres se résorbe dans l'ordre des textes, inventoriés, classés, identifiés. L'organisation de la bibliothèque reflète celle des savoirs et des genres littéraires. La bibliothèque est un espace de dialogue, dialogue entre les savoirs, entre les champs, entre les genres littéraires, entre les mémoires. Il est intéressant de souligner que dans cet ordre des livres, si bien décrit par Vitruve, nous avons quatre termes. Nous avons l'auteur ancien, le poète, l'artiste qui interprète le texte en représentation. Nous avons l'auditoire et nous avons enfin le lecteur en bibliothèque. Il y a un absent, le scribe, celui qui a matériellement écrit le texte. La bibliothèque d'Alexandrie ne conserve pas de manuscrits autographes. Les rouleaux sont le produit d'une tradition. Les relais de cette tradition, les scribes, ne sont pas identifiés. Peut-être cela renvoie-t-il au statut ancillaire de l'écriture comme acte manuel et technique. Les textes de la bibliothèque d'Alexandrie ne gardent la mémoire que de leur auteur qui a composé ou écrit le texte à l'origine, et dans certains cas, du lecteur-correcteur qui attache son nom à une édition du corpus. On ne peut s'approprier le poème d'un autre et le présenter comme sa création originale lors d'une performance publique, même si l'on tient en main un rouleau dont on fait la lecture. En revanche, le savant de la bibliothèque peut intervenir sur le texte transmis, le corriger, faire un choix parmi des variantes, lui donner une forme graphique et visuelle, ajouter un niveau de signe qui ne se trouvait pas dans le texte reçu, la ponctuation, l'accentuation, les marques prosodiques. Ces signes ont pour finalité de faciliter la réactualisation du poème par la lecture oralisée, en aidant à la séparation des mots et à la scansion des vers. Le lecteur savant peut aussi commenter le texte, l'expliquer, le rendre plus intelligible, le relier à d'autres textes, le relier à la bibliothèque entière. Il peut faire du texte un objet d'étude, un champ de questions, le terrain d'un travail d'interprétation. Le commentateur peut être un bibliothécaire. Il n'est pas l'auteur du texte, il en est certainement un lecteur particulier qui construit la lecture, l'intelligibilité de ce texte pour d'autres lecteurs. Aristophane de Byzance, le héros de notre histoire, sera l'un des artisans de cette fabrique alexandrine de la forme et du sens des textes. Pour conclure, dans le récit de Vitruve, le texte littéraire se trouve régi par différentes formes de mémoire. Il y a la mémoire artificielle et externe de l'écriture qui préserve le texte dans sa forme et sa littéralité. Elle sert de support à la lecture à haute voix en inscrivant celle-ci dans l'ordre de la répétition de ce qui est déjà écrit et non dans l'ordre de l'improvisation. Elle est garante de la stabilité du texte, elle fait référence, elle fait autorité. Il y a la mémoire englobante de la bibliothèque d'Alexandrie qui réunit tous les livres, mémoire absolue, mais aussi mémoire morte, sans les lecteurs qui travaillent à la maîtriser, à l'organiser, à la baliser dans un double espace. L'espace matériel du rangement des rouleaux sur les étagères superposées, juxtaposées, l'espace intellectuel de la paideia, organisé par genre littéraire, type de discours et de disciplines intellectuelles, et à l'intérieur de ces subdivisions, par l'ordre alphabétique des auteurs et de leurs différentes œuvres. Cette mémoire de la bibliothèque peut être maîtrisée par les tables de Callimaque qui offrent une carte à petite échelle de la bibliothèque d'Alexandrie. Mais seule la mémoire humaine du lecteur permet de maîtriser la carte à grande échelle, celle qui permet de passer des sections de la bibliothèque aux livres, puis des livres aux textes et des textes aux différents vers. La mémoire du lecteur est une mémoire rhapsodique qui porte sur les écrits des autres, qui sait relier la voix et le livre et qui sait reconnaître le texte écrit dans le poème récité par un autre. Pour conclure, donc, dans cette dernière communication de la session sur Logos et Techné, j'ai voulu mettre en évidence un moment de transition entre la Grèce et Rome, entre Alexandrie et Rome, entre le grec et latin, et le latin, entre la cité et le royaume, entre les performances orales et le monde de la bibliothèque. Monde de transition également entre l'écriture et le chant. Mais comment fait-on parler les textes et est-ce que les textes écrits peuvent encore chanter? En guise de point de suspension, j'évoquerai ces nouveaux savoirs légués par les savants d'Alexandrie, par les bibliothécaires, par les commentateurs, par les philologues, qui ont su préserver, parfois, la mélodie des textes et leur rythme, comme Grégory Nagy l'a si bien analysé à propos des papyrus de Bakylide. La lecture est enfin l'art le plus culturel qui soit. Elle découpe les mots, elle ressuscite la mélodie des textes et elle éveille le sens, la sagesse, les savoirs, à jamais enfouis dans le tombeau de la bibliothèque d'Alexandrie. Je vous remercie.